Vous êtes avec SBS French. Retrouvez les rubriques sur sbs.com.au/french.
À la une de l'actualité de ce mardi 12 janvier 2021. Après l'intrusion au Capitole la semaine dernière, Donald Trump est visé par une procédure de destitution. Israël, pour sa part, est champion du monde de la vaccination contre le Covid-19. Et puis en Australie, il faut désormais un permis pour entrer dans le Victoria depuis les zones rurales de Nouvelle-Galles du Sud. Donald Trump restera-t-il à la Maison-Blanche jusqu'au terme de son mandat le 20 janvier prochain? Au Capitole, les représentants démocrates ont déposé une motion de destitution. Elle fait suite à l'intrusion du Parlement américain par des partisans de Donald Trump la semaine dernière. Et cette motion de destitution, elle l'accuse notamment d'avoir incité à l'insurrection. Qu'est-ce qui est précisément reproché au président sortant et que risque-t-il? On retrouve Anne Corpé à Washington pour faire le point.
Donald Trump a menacé l'intégrité du système démocratique, fait obstacle à la transition pacifique du pouvoir et mis en péril une branche égale du gouvernement, peut-on lire dans l'acte d'accusation déposé ce lundi matin à la Chambre. Et le texte conclut, Donald Trump, par sa conduite, a démontré qu'il restera une menace pour la sécurité nationale, la démocratie et la Constitution s'il est autorisé à rester en fonction. Cet acte d'accusation pourrait être soumis au vote dès mercredi à la Chambre. Un procès sera ensuite engagé au Sénat, mais il ne pourra pas débuter avant le 19 janvier, soit à la veille de l'investiture de Joe Biden. Ce procès, s'il a lieu, se déroulera donc une fois que le président aura quitté la Maison-Blanche. Si Donald Trump est reconnu coupable, il ne pourra plus se présenter à la présidence des États-Unis et ne touchera pas sa retraite de chef d'État. Anne Corpé, Washington, RFI.
On vient donc d'écouter les explications d'Anne Corpé, correspondante permanente de RFI à Washington. Et pendant ce temps-là, Donald Trump, lui, compte se rendre aujourd'hui à Alamo, dans le Texas, un déplacement qui doit vanter les mérites du mur qu'il a fait construire le long de la frontière mexicaine. Une opération de communication aussi, alors que Donald Trump a été banni à vie des réseaux sociaux Twitter et Facebook. On va écouter sur ce point l'analyse de James Cohen. Il est professeur spécialiste de la politique migratoire américaine à l'université Sorbonne Nouvelle.
Je pense que c'est une façon de faire du spectacle là où il en aurait moins, parce qu'il est coupé de la plupart de ses plateformes habituelles. J'ai noté que ni le gouverneur ni le vice-gouverneur du Texas ne vont l'accompagner. Normalement, il l'aurait fait, mais il est devenu quand même un peu toxique, même auprès des républicains qui gouvernent cet État. Donc, il va là pour essayer de se donner un petit bain de foule et de montrer ses merveilleuses réalisations dans ses derniers jours au pouvoir. C'est tout simplement du spectacle, à mon avis. Je pense qu'il ne va pas lâcher l'affaire. Je pense qu'il va continuer jusqu'à la fin de ses jours à prétendre que l'élection lui a été volée par je ne sais quelle fraude et il va essayer de faire exister une base militante à droite ou dans les marges de droite du Parti républicain. Il y a lui, mais il y a aussi des sénateurs et des représentants qui sont encore en exercice et qui vont essayer eux aussi de consolider cette frange extrémiste du Parti républicain.
Et en Australie, les débordements de ces derniers jours aux États-Unis ont fait dire des bêtises à certains politiciens australiens. C'est par exemple le cas du Premier ministre par intérim, Michael McCormack, qui a comparé les émeutes du Capitole avec les manifestations Black Lives Matter. Le parallèle a choqué de nombreuses organisations de défense des droits de l'homme. C'est par exemple le cas d'Amnesty International qui a demandé à Michael McCormack de rétracter ses propos. Mais au contraire, sur la chaîne ABC, il les a maintenus et il a rappelé qu'il dénonce toute forme de violence.
Any form of violence, any form of protest that ends in death and destruction is abhorred. And you know, I know this is very difficult for the United States as it goes through great change. But you know, any form of protest, whether it's a protest over racial rights or indeed what we've seen on Capitol Hill. In recent days, is condemned and is abhorred.
Dans le reste de l'actualité, une équipe d'experts mandatée par l'Organisation mondiale de la santé va bientôt pouvoir se rendre en Chine pour enquêter sur les origines du Covid-19. Cette enquête, elle avait été décidée en mai dernier par l'Assemblée générale de l'OMS. La Chine, elle l'avait acceptée à contre-cœur. Elle faisait depuis des mois traîner la mise en route de cette enquête. Le problème semble désormais résolu, à la satisfaction de Tedros Ghebreyesus, le directeur général de l'OMS. Il rappelle que le cœur de la mission qui s'apprête à démarrer, c'est de découvrir comment le virus se transmet à l'homme.
Studies will begin in Wuhan to identify the potential source of infection of the early cases. Scientific evidence will drive hypotheses, which will then be the basis for further long-term studies. This is important not just for COVID-19, but for the future of global health security and to manage emerging disease threats with pandemic potential.
Et dans la lutte contre la pandémie, il y a un pays qui se démarque, c'est Israël, qui apparaît depuis quelques semaines comme un véritable champion de la vaccination. 2 millions de personnes dans ce pays ont déjà reçu au moins une dose du vaccin, soit 20% de l'ensemble de la population. Et une nouvelle livraison du vaccin Pfizer vient d'arriver dans le pays qui compte encore accélérer sa campagne de vaccination. Sur place, on va faire le point avec le correspondant de RFI en Israël, Sami Boukhelifa.
Objectif, vacciner 170 000 personnes par jour. À ce rythme-là, l'État hébreu sera le premier pays à sortir de la crise, prédit le premier ministre israélien. Sur les plateaux de télévision pour se faire vacciner et donner l'exemple, ou sur le tarmac de l'aéroport international Ben Gurion pour réceptionner les nouvelles doses de vaccins, Benjamin Netanyahou fait feu de tout bois. « Nous sommes un modèle pour les autres pays », se vante le chef du gouvernement sur son compte Twitter. « L'Europe souhaiterait profiter de notre expertise », se réjouit-il. Car en matière de vaccination, le système israélien est efficace. L'approvisionnement est garanti. Israël a conclu des contrats avec les laboratoires Pfizer-BioNTech et Moderna, 14 millions de doses pour 9 millions d'habitants. Les livraisons sont hebdomadaires. Le stockage est au point, les hôpitaux ne sont pas encombrés par des millions de candidats au vaccin. Ce sont les caisses des assurances maladies israéliennes qui gèrent la logistique. Les populations à risque ont été vaccinées en priorité. Les autorités sanitaires étudient désormais la possibilité d'ouvrir les centres de vaccination 24 heures sur 24. Sami Boukhelifa, Jérusalem, RFI.
Direction maintenant la Russie. La Russie qui vient de signer un pacte avec l'Arménie et l'Azerbaïdjan destiné à développer les relations économiques mais aussi les infrastructures dans toute cette sous-région. C'était la première fois que les dirigeants azerbaïdjanais et arméniens se rencontraient depuis la signature d'une trêve entre les deux pays en novembre dernier. Les deux pays, on le rappelle, qui se sont déchirés ces dernières semaines à propos d'une région qui s'appelle le Haut-Karabakh. Alors ces deux chefs d'État se sont vus, ils ont néanmoins refusé de se serrer la main. Le président russe Vladimir Poutine, pour sa part, veut croire que cet accord apaisera les tensions entre ces deux pays.
The pact that we signed today reveals our confidence, as the ceasefire agreement also included removing obstacles in transportation. That will speed up the region's development and improve security. Transport infrastructure will benefit the people of Azerbaijan, Armenia, and Russia. We need to think about the future, about how we will continue to live as neighbors, and how we can increase our efforts to ensure regional stability and security.
Et sur la côte du nord de l'Afrique, les Libyens se rendent aux urnes aujourd'hui à l'occasion des élections municipales qui ont ouvert dans tout l'est du pays. Pour l'occasion, la journée a été déclarée fériée en Libye. Les électeurs, eux, espèrent que ce seront les plus compétents qui seront élus.
The elections are a time when the people choose who will serve them. And they are the ones who choose the fittest person in society to be serving in the municipality. Because the municipality is considered similar to the directorate, it must provide services. And who provides those services? Those nominated members of the municipality. They must be honest, and people must choose the right person for the right job.
Plus de 50 pays à travers le monde viennent de s'engager à protéger près d'un tiers de la planète d'ici à 2030, et ce pour enrayer la destruction des habitats naturels, mais aussi la disparition d'un certain nombre d'espèces menacées. Cet engagement, il a été pris à l'occasion du sommet One Planet qui s'est déroulé à Paris, mais en fait qui s'est surtout déroulé en ligne. Mené de front trois combats, d'abord contre la pandémie de Covid, puis contre la disparition de la biodiversité, et puis contre le ralentissement mondial de l'économie. C'est une tâche difficile, mais pas insurmontable, d'après Antonio Guterres. C'est le secrétaire général des Nations Unies. Écoutez-le.
Pandemic recovery is our chance to change course. With smart policies and the right investments, we can chart a path that brings health to all, revives economies and builds resilience and rescues biodiversity. Innovations in energy and transport can see a sustainable recovery and economic and social transformation. And nature-based solutions, such as the Africa's Great Green Wall, are especially promising. Preserving the world's biodiversity also yields jobs.
De retour en Australie, plus précisément dans le Queensland, où aujourd'hui on recense trois nouveaux cas de Covid-19, parmi lesquels deux sont des voyageurs de retour et actuellement placés en quarantaine à l'hôtel. Alors ça ne fait du coup qu'un seul nouveau cas de transmission locale. Néanmoins, la directrice de la santé du Queensland invite malgré tout la population à rester prudente. Elle estime que les risques de transmission locale n'ont pas encore complètement disparu.
So I am asking people who went to any of the venues that he went to please immediately come forward and get tested. The risk is low, but the risk is there. So I really ask you to come forward. So those two venues he went to, on the 5th of January, he went to the Bunnings warehouse at Acacia Ridge between 2 p.m. and 2:40 p.m. Then the next day, on the 6th of January, he went to the Sunnybank Cellars at Hellowell Road in Sunnybank Hills between 2:05 and 2:15 p.m.
Brisbane est donc sortie d'un confinement qui aura duré 3 jours. En revanche, certaines restrictions sont maintenues. Le port du masque, par exemple, reste obligatoire dans tous les lieux clos du Grand Brisbane. Et le non-respect de cette mesure vous expose à une possible amende. C'est ce qu'a rappelé Steve Goldschewski, le chef adjoint de la police du Queensland.
If people want to intersect with our police officers and not have any issues, but also do the right thing, please carry a mask at all times and wear it when you should. So the onus is on all of us as members of the community to understand what the requirements are about wearing the masks. Our police will continue to carry and offer masks to those persons that don't have them when they should. We will always give people the opportunity to comply with the directions. However, if people choose not to do that, there are strict penalties that apply and up to a $1,300 fine could be imposed.
5 nouveaux cas de transmission locale du coronavirus détectés en Nouvelle-Galles du Sud. Gladys Berger-Client, qui dirige l'État, souhaite que le nombre de dépistages quotidiens reste au-dessus de 25 000. C'est, d'après elle, le meilleur moyen de garder un temps d'avance sur le virus.
It's so critical that we raise those testing levels. 14,700 isn't really enough for where we're up to in the pandemic. And whilst all of us have been so vigilant and so good in getting those testing rates up, we need to maintain that again to make sure we manage to get on top of the rumblings that are still there.
Et les nouvelles sont plus positives dans l'état du Victoria, qui enregistre aujourd'hui son 6e jour consécutif sans aucun nouveau cas de Covid. En revanche, les personnes qui voudraient se rendre dans le Victoria depuis la Nouvelle-Galles du Sud, en tout cas la partie rurale de la Nouvelle-Galles du Sud, doivent désormais se munir d'un permis spécial. Pour l'obtenir, il faut se rendre sur le site internet de Services Victoria. Et puis pour finir, on fait un point sur la météo du jour en Australie. 33 degrés et du soleil à Perth. Beau temps également à Adélaïde où il fait aussi 30 degrés. 22 degrés à Melbourne où le temps devrait se dégager dans la journée. Grand soleil en revanche depuis ce matin à Sydney où il fait 29 degrés. 29 degrés aussi mais sous les nuages pour Brisbane. Et jusqu'à 34 degrés aujourd'hui à Darwin.
Vous voulez entendre d'autres rubriques comme celle-ci? Écoutez-les sur Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify ou n'importe où vous obtenez vos podcasts.